Voilà, alors bonsoir à chacune, à chacun. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez aussi? Ça va? Parfait. Parfait. Vous dire ma joie d'être ici à Belfort. Merci aux organisateurs, organisatrices, l'association Racines et Chemins, tout un programme, hein, Racines et Chemins. En particulier mon amie Marie-Christine Michaud, de m'avoir invité à ce cycle passionnant, la place des religions dans la formation du citoyen. Allez, je vais ajouter, et de la citoyenne, hein, si vous voulez bien. Voilà, et donc pour commencer en introduction sur cette égalité, avant de parler évidemment des textes bibliques, vous dire en deux mots, donc moi je suis traductrice de la Bible, le plus beau métier du monde, j'ai un doctorat en histoire des religions et en théologie, j'enseigne dans plusieurs facultés de théologie, j'ai participé à la TOB, traduction œcuménique de la Bible 2010, et j'ai supervisé la révision de la Nouvelle Français Courant, donc avec 60 collaborateurs de toutes les confessions, de toute la francophonie. Et donc, voilà, il l'a dit, je suis baptiste, c'est une des branches du protestantisme, je suis la vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et donc, parmi mes lieux d'engagement, il y a l'œcuménisme qui me tient très à cœur, et donc je suis contente qu'il y ait ce soir toute la diversité aussi, christianisme ou pas d'ailleurs, aussi pour cette conférence. Alors, il y a 15 jours, j'étais à l'ONU, à New York, pour la 69e commission sur la condition de la femme. J'étais invitée par la ministre Aurore Berger, chargée de l'égalité entre hommes et femmes, dans la délégation officielle française. Donc, la CSW, c'est pendant une semaine, les États membres et 700 ONG qui se retrouvent pour faire un état des lieux de la condition de la femme dans le monde. Et le sujet, c'était, voilà, 30 ans après une déclaration très importante de Beijing, quel bilan? Quel bilan de l'égalité homme-femme? Et c'est donc votre sujet aussi. Quel bilan ici? Et d'abord, eh bien, en fait, ça a été un triste constat. Alors, sortez vos mouchoirs, hein, préparez-vous, j'espère que vous êtes bien installés. C'est pas des bonnes nouvelles. Partout, on a constaté un recul, alors qu'il y avait eu des avancées pendant des années là sur les droits des femmes. Un pays sur quatre, dans son rapport officiel à l'ONU, a dit avoir connu un recul dans les 2-3 années là précédentes. Même les pays d'Europe du Nord, qui étaient pionniers, moteurs, disaient avoir connu un recul ici. Hein. Et donc, lors de cette session, le secrétaire général de l'ONU a ouvert la session, la semaine, en disant, en parlant du poison du patriarcat qui est de retour avec un esprit de revanche. Ça vous cite un peu, ça vous situe le cadre. Hein. Et donc, parmi les choses qu'on a entendues dans cette semaine, qu'est-ce qui a changé? À la fois que d'une part le monde était plus égal, mais que d'autre part le monde était aussi plus violent. Alors plus égal, parce que c'est vrai, on voit le droit de vote dans la plupart des pays, le droit au travail, le nombre de femmes dans les parlements qui a doublé, alors on est à 20% seulement, mais enfin ça a doublé, il faut toujours voir d'où on part, hein. Donc ça a doublé, le nombre de filles à l'école qui n'a jamais été aussi élevé, là on se réjouit, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, ça veut dire qu'il y a encore 129 millions de filles dans le monde qui ne vont pas à l'école. Et puis, du coup, d'autre part, je vous ai dit, le monde qui est encore plus violent, avec donc tous ces pays en guerre, avec donc 600 millions de femmes qui vivent dans un pays qui est en guerre aujourd'hui, avec du coup, la toute dernière enquête, ça c'est pour l'Europe, on va balayer devant notre porte, hein, on va regarder la poutre chez nous, toute dernière enquête en Europe, 43% des Européens qui pensent que la place de la femme, c'est à la maison. Ouais, ça fait beaucoup, hein, ici. Hein. Et donc, une stat à retenir, s'il n'y en a qu'une à retenir, au rythme actuel, si on continue comme ça, nous dit le secrétaire général de l'ONU, il faudra 300 ans pour atteindre la pleine égalité homme-femme. 300 ans. Et donc, la force au-delà des stats, c'est d'avoir rencontré des femmes, du coup, de tous ces pays et de mettre des visages, hein, c'est beaucoup plus que des stats, je pense à ces Soudanaises, victimes de viols de guerre, à ces femmes afghanes qui n'ont plus le droit de travailler dans la rue, d'aller dans la rue, d'aller à l'école, etc. Et je termine cette introduction, justement, vous voyez, on est bien sur ce sujet, la égalité homme-femme. L'une des clés qui était proposée dans plusieurs des sessions ici, c'était comment parvenir alors à cette pleine égalité? Comment accélérer pour qu'on n'ait pas 300 ans, d'accord? Eh bien, plusieurs évoquaient le fait que c'était les hommes qui devaient devenir des alliés. Et que c'était aux hommes maintenant aussi de monter au créneau, et que c'était pas une histoire de femmes, cette égalité homme-femme, c'était pas seulement les femmes, mais que c'est les hommes aujourd'hui qui devaient devenir les alliés. Donc messieurs, restez, hein, les messieurs qui sont là ce soir, restez. Et que donc du coup, le féminisme, c'était pas une idéologie, c'était de la justice. Et parmi les ONG, parmi les 700 ONG, il y avait aussi des ONG chrétiennes, elles sont bienvenues à l'ONU, Oui, ça nous change un peu de la laïcité. Voilà, et du coup, elles sont vraiment bienvenues. Et donc, ces ONG nous disaient, eh bien, l'égalité femmes-hommes, c'est pas un cadeau fait aux femmes, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Et bien, c'est justement ça, alors, qu'on va se poser ce soir comme question. Regard biblique sur l'égalité entre hommes et femmes, parce que beaucoup pensent que la Bible, eh bien, c'est pas du tout un livre qui prône l'égalité. Écoutez en particulier ce qu'ont dit ces militantes féministes en lisant la Bible. Voilà leur opinion sur ce que dit la Bible de la femme. Vous arrivez à y voir, c'est un peu petit, hein. Bon, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. La Bible enseigne que c'est la femme qui a introduit le péché et la mort dans ce monde. C'est elle qui a précipité la chute de la race humaine. Elle fut accusée devant le grand juge céleste, jugée, condamnée, punie. Le mariage pour elle devait se limiter à être un état d'esclavage, la maternité une période de souffrance, et tout en gardant une attitude de silence et de soumission, elle devait se placer en situation de dépendance envers son mari. Dépendre de lui, de sa générosité, voilà ce que dit la Bible sur la femme. Est-ce qu'on a déjà entendu des choses qui allaient dans ce sens-là, sur certains réseaux sociaux, hein, et dans certains milieux? Ben justement, du coup, moi je voudrais parcourir avec vous ces pages de la Bible et vous montrer une autre histoire, une autre lecture, de par mon point de vue là de traductrice de la Bible. Bien sûr, on va trouver du sexisme aussi dans la culture patriarcale qui était celle de la Bible, mais la trajectoire, elle, est un message qui s'appelle « Bonne nouvelle », c'est la traduction donc du mot « évangile ». Alors oui, bien sûr, on va le voir, il y a du patriarcat, de la Genèse à l'Apocalypse ici, un des signes de ce patriarcat dans la Bible, c'est l'anonymat, l'anonymat des femmes. Quel est le nom de la femme de Job? La femme de Job? Quel est le nom de la femme de Lot? La servante de la femme du général Naaman. Vous voyez, la servante de la femme, l'anonyme de l'anonyme. Hein, donc l'anonymat ici. Citez-moi quel est ce personnage dans la Bible dont Jésus a dit qu'il faudrait en faire mémoire chaque fois qu'on parlerait de sa mort et de sa résurrection. Chaque fois, donc ça veut dire pratiquement chaque dimanche, là, hein, et puis à Pâques, et puis chaque fois qu'on fait mention de sa mort et de sa résurrection, il nous dit qu'on doit parler d'elle. Mais qui est-elle? Elle est restée anonyme, voilà sa photo d'époque, vous la reconnaissez, c'est la femme qui a réalisé l'onction. Alors il y a plusieurs récits d'onction dans les évangiles, hein. Il y en a une où on sait, un de ces récits d'onction, c'est Marie. Mais il y a un autre récit d'onction où là, elle est anonyme. Et donc bizarrement, elle a été totalement oubliée, anonyme ici. Et cette femme, admirée par Jésus et qu'on devrait tous admirer, on ne sait pas comment elle s'appelle, son nom est tombé dans les oubliettes de l'histoire. Et pourtant, regardez donc la photo d'époque, c'est pas n'importe quelle onction qu'elle réalise. Regardez, c'est donc, elle verse sur sa tête le parfum, un geste d'onction qui rappelle celui par lequel les prophètes choisissaient les rois, celui par lequel étaient choisis les prêtres pour leur sacerdoce. Et France Quéré, grande théologienne protestante, résume son geste, l'importance de son geste. Elle accomplit l'onction sacerdotale. Elle sacre Jésus, roi d'Israël et prophète. Impensable qu'une femme soit à l'origine d'une telle onction, et donc les évangélistes ont oublié son nom, alors que Jésus, vous voyez, dit lui, il faudra se souvenir d'elle. Elle est devenue emblématique de toutes ces femmes dans les récits bibliques et dans l'histoire qui ont joué un grand rôle, mais qu'on a invisibilisé. Une théologienne catholique, Elisabeth Schusser-Fioranza, considérée comme l'initiatrice de la théologie féministe, a écrit cet ouvrage qui a fait date, « En mémoire d'elle », justement en mémoire de cette femme-là, ici, de cette femme anonyme. Donc c'est vrai qu'il y a cet univers patriarcal ici dans la Bible, et pourtant, on va le voir, il n'est pas rare que ce soit les femmes qui permettent à l'histoire d'aller de l'avant. Prenez l'exemple de Moïse. Tout le monde situe Moïse. Moïse, vous enlevez les femmes de l'histoire de Moïse, il n'y a pas de Moïse. Le rôle déterminant des femmes dans l'histoire de Moïse, à qui vous pensez dans l'histoire de Moïse? Déjà sa mère qui le sauve, hein, en le mettant du coup là dans la panette. Sa sœur qui le suit. Et les sages-femmes déjà au tout début de son existence, sans les sages-femmes, il n'y a pas de Moïse. La fille de Pharaon. Et l'épouse de Moïse qui le sauve aussi dans ce rituel mystérieux, là, cette nuit mystérieuse où elle pratique sa circoncision, un geste habituellement réservé aux prêtres. Donc vous voyez bien, sans les femmes là, dans l'histoire de Moïse, il n'y a pas de Moïse. Le salut vient des femmes, comme le dit un livre récent. Pour le dire avec les mots du philosophe Lévinas, tous les aiguillages de cette voie difficile, où le train de l'histoire messianique risquait mille fois de dérailler, ont été gardés, commandés par des femmes. Alors la Bible est-elle sexiste? Quelle place, hein, du coup, quelle égalité? Où est-ce qu'on voit l'égalité, la femme-homme? Je voudrais vous proposer un voyage en quatre temps, mais en respectant le temps, évidemment. On va commencer au commencement, Genèse 1 et 2, et puis on va regarder la femme dans l'Ancien Testament, alors là, patriarcat de père en fils, hein. Et puis, l'attitude de Jésus, Jésus, l'homme qui préférait les femmes, point d'interrogation, et puis Paul, Paul qui n'est pas le misogyne qu'on croit, on va regarder les premières communautés chrétiennes. Donc commençons par le commencement, si vous voulez bien, et Genèse 1 et 2. Eh bien, lorsque on lit du coup ces deux premiers chapitres, on a la clé du coup, si vous voulez, qu'est-ce qui était prévu dans le cœur de Dieu pour l'homme et la femme, d'un point de vue anthropologique, etc. Eh bien, c'est cette égalité homme-femme. On le voit dans ce célèbre passage que vous connaissez, qu'on lit à tous les mariages, Genèse 1, 26. Dieu dit « Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'humain à son image. » À son image, il le créa, mâle et femelle, il les créa, il les bénit en disant « Soyez féconds », etc. Le texte commence par poser deux ressemblances importantes entre l'homme et la femme. Vous l'avez entendu, les deux sont créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. En hébreu, c'est des mots très très proches ici. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'emploi du verbe « créer » en hébreu « bara ». Ce n'est pas un verbe neutre, hein, c'est un verbe du coup qui est réservé à Dieu. C'est Dieu qui en est toujours le sujet. Il n'a pas le sens banal, vous voyez, dans notre langue, hein, de création. Non, non. Ce qu'il y a de spécifique dans ce verbe ici, c'est que lorsque les choses n'auraient pas pu se faire de soi et qu'il faut une intervention du coup divine, une rupture, une espèce de saut qualitatif. Si vous relisez Genèse 1 avec votre stabilo et vous voyez les trois endroits où il apparaît, les endroits clés. La première fois, Genèse 1:1, tout premier verset du premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa, vous êtes toujours là? Dieu créa le ciel et la terre, hein, Genèse 1:1. Voilà la première fois qu'il apparaît ici. Donc vous voyez, il y avait tohu bohu, matière inorganique, et il créa le ciel et la terre. Ensuite, avec les animaux, il créa les animaux, et le passage qu'on vient de lire avec l'être humain. Ici, donc avec un terme générique, hein, Adam ici n'est pas encore un prénom pour un homme, c'est ici le terme générique pour l'être humain. Vous voyez que ce verbe créer apparaît quand on a besoin de passer une frontière, celle qui sépare le tohu-bohu de la vie, le végétal de l'animal et l'animal de l'être humain. Mais notez bien qu'il n'est pas présent entre l'homme et la femme. Il y a une seule espèce humaine, d'accord? Ici, on est placé d'emblée au même niveau, même égalité, même dignité. Alors que pour les animaux et les arbres fruitiers, il y a ce refrain qui revient en permanence dans la Genèse, chacun selon son espèce. Vous pouvez le souligner 10 fois, chacun selon son espèce, chacun selon son espèce, mais pas pour l'être humain. N'en déplaise à tous les racistes en tout genre, sur tous les continents, une seule espèce, hein, une seule race humaine, l'homme et la femme ici, hein, créés tous les deux à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors là, il nous faudrait une conférence entière sur c'est quoi l'image de Dieu et la ressemblance, mais on va dire que ce qui compte là, c'est le message du texte, c'est de bien dire leur égale dignité ici, et c'est d'ailleurs ce qui va fonder le fondement de l'interdit du meurtre, parce que donc tout être humain est à l'image de Dieu. Deuxième ressemblance du coup ici qui est posée, la deuxième ressemblance, il donne aux deux l'ordre de dominer cette terre, d'en prendre soin, de la cultiver et de la dominer. Il confie à l'homme et à la femme ce mandat culturel, cette autorité. Vous le voyez, il n'y a pas encore de partage de rôle, d'attribution des tâches différentes. Ça, c'est ce que les cultures vont faire. L'homme ceci, la femme cela. On a bien une même autorité ici, alors que dans l'ensemble de la Genèse, il y a une organisation hiérarchique. On voit qu'entre l'homme et la femme, il n'y a pas ici cette organisation hiérarchique. Donc on pose deux ressemblances, mais en même temps, tout de suite, le texte va poser des différences. L'homme et la femme, pas interchangeables, d'accord, avec chacun aussi des spécificités. Donc je le redis, la différence n'est pas leur dignité. Le texte a bien d'abord posé qu'ils avaient une égale dignité, hein, et une égalité. La différence, elle va être posée, vous l'avez entendu, en des termes très concrets. Mâle et femelle, il les créa. Ça vous a peut-être même un peu titillé l'oreille. Non, c'est homme et femme, il les créa. Et c'est vrai que là, en tant que traducteur, on a beaucoup discuté, l'hébreu, c'est vraiment mâle et femelle, des termes très concrets, très sexués, qu'on emploie par exemple pour les animaux, dans l'arche, ils rentrent par deux, mâle et femelle, par couple, par paire. Et donc les traducteurs préfèrent hommes et femmes, c'est moins heurtant. Mais l'hébreu ici, demandons-nous, arrêtons-nous, pourquoi l'hébreu emploie ici ces termes très concrets, très sexués? Ben, l'hébreu est une langue concrète. L'hébreu aime les images, comme dans un tableau impressionniste, comme dans certains dialectes où il y a beaucoup d'images. On aime, plutôt que les concepts, c'est la langue française, elle est très conceptuelle et abstraite. L'hébreu, lui, est très concret, d'accord, une langue concrète. Et donc, ici, l'hébreu, pour dire que l'ensemble du psychisme, l'ensemble de la personne, elle se vit de façon différente pour l'homme et la femme, elle pose ces mots, mâle et femelle, il les créa. Vous l'avez vu, du coup, mâle, c'est percer, femelle, c'est être percé, en tout cas des termes donc sexués. Déjà pour nous rappeler aussi que la sexualité a Dieu pour auteur. Et quand on voit le puritanisme de toutes les églises, hein, toutes églises confondues pendant des siècles sur ce sujet, c'était peut-être pas mal hein, de rappeler ça là d'emblée, que c'est Dieu qui nous avait créés sexués ici. Hein. Donc vous voyez que cette différence est posée en termes très concrets ici, mâle et femelle. Un autre exemple là, de ce côté concret, quand on veut décrire la tendresse de Dieu, on dit que son utérus frémit pour nous. Aucun traducteur n'a osé l'utérus de Dieu, hein, vous ne trouverez pas ça dans vos bibles, ah non. Ah oui, ça barbe, oui, ça en veut bien, Michel-Ange, mais non, Dieu n'est pas sexué, vous voyez, mais on emploie des images pour le comprendre, et sa tendresse, c'est avec l'hébreu pour nous dire, son utérus frémit pour nous ici, hein. Donc c'est très beau, vous voyez, du concret, une image pour nous décrire quelque chose de plus, voilà, de plus abstrait, sa tendresse ici, hein. Donc Dieu, évidemment, n'est pas genré, n'en déplaise à Michel-Ange, hein, avec son Dieu blanc, barbu, qui nous a bien formatés, hein, d'accord. Ici, non, Dieu n'est pas genré. Mais en tout cas, vous voyez ce qui se passe dans le texte de la Genèse. On nous a posé des ressemblances, on nous a posé aussi une différence. On va dire différent, le souci, notre société a rejeté la différence, parce que pendant des siècles, on a compris différent comme inégalitaire. Alors si c'est ça la différence, je rejette la différence. Vous voyez, on a compris, ah oui, ça pourrait être différent, on est différent, vous voyez. Et donc du coup, là, le texte lui pose une différence, mais dans l'égalité, c'est ça qui est intéressant. On le voit à la suite du récit. Dans la suite du récit de Genèse 1 et 2, il y a des indices pour bien confirmer cette égalité. Le fait même que, par exemple, la relation qui va unir ces deux-là, et c'est pas valable que pour le couple ce qu'on dit là, c'est valable pour globalement les relations homme-femme, hein, d'accord, eh bien ça va être une relation d'alliance. Dans l'alliance, il y a ici des droits, des devoirs, chacun du coup s'engage à quelque chose, mais dans l'égalité. On le voit en particulier à ce verset, lui aussi à tous les mariages, et c'est le moment où la mariée regarde ses chaussures et attend que ça passe. Parce que les traductions sexistes de ce passage, moi j'ai beaucoup travaillé cette question des traductions sexistes, tout à l'heure on va faire un exercice ensemble pour vous toucher du doigt ces traductions sexistes, nous ont pas aidé à comprendre là ici le très beau programme que voulait Dieu pour l'homme et la femme. Le Seigneur Dieu dit, non, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide, oh là là, une aide qui lui soit accordée. Eh ben voilà, tout est dit, c'est ça du coup le cœur programmatique de ce que Dieu veut pour l'homme et la femme. La femme, son but dans la vie, ce sera d'être une aide, donc elle repasse les chemises de son mari pendant qu'il progresse dans sa carrière, hein, qu'est-ce qu'elle fait, vous voyez, une aide. Voilà un mot vraiment fourre-tout en français, une auxiliaire si vous voulez. Alors que l'hébreu, je vous l'ai écrit là, Ezer Kenegdo, est tellement plus riche, tellement plus fort ici. Ezer Kenegdo, alors c'est la plupart des traductions françaises, hein, puisqu'elles étaient surtout faites par des hommes qui ont mis l'aide ici. Hein. Et donc, Ezer Kenegdo, quand on veut savoir ce que veut dire un mot, c'est pas au feeling. Hein. À moi, ce mot-là, je le sens bien. Tiens, j'ai bien envie qu'il veuille dire ça. Non, c'est très sérieux, c'est très scientifique. On prend le mot et on regarde toutes ces occurrences. Et on revient ensuite, du coup, au passage à traduire. Et là, on a une surprise. Ezer, vous le connaissez dans Ebenezer, Eliezer. Ezer est réservé à Dieu dans l'immense majorité des occurrences. Et il est traduit ailleurs par secours, soutien, salut. Et c'est Dieu qui est notre Ezer. Dieu, tu es mon soutien, mon salut, mon secours. Il ne vous viendrait pas à l'idée de dire que Dieu est votre aide. Votre auxiliaire, vous voyez. C'est ce mot-là qui va être employé pour décrire ce que la femme va être pour l'homme. Et du coup, là, réciproquement, il y a une notion de vis-à-vis. Il avait besoin d'être secouru. Mais de quoi il avait besoin d'être secouru, là, notre premier homme? Justement, de l'entre-soi. Il avait besoin d'altérité. de quelqu'un qui lui soit ressemblant, mais différent aussi. Hein. L'altérité, c'est le mot chic pour la différence ici. Hein. Donc, Ézer, Kenegdo, nous dit l'hébreu. On va le qualifier, ce secours, ce salut, ce soutien. Kenegdo, comme en face de lui. Donc un vis-à-vis, un partenaire, comme en face de lui. Il y a même dans l'hébreu la notion de front à front. Ils sont l'un en face de l'autre, front à front. Il y a de la résistance entre ces deux-là. Il va y avoir du conflit. Du conflit ? C'est pas chrétien, ça. Eh bien si, vous voyez, le texte de la Genèse, programmatiquement, et on est avant Genèse 3, la chute, eh bien, il y a le conflit qui est programmé. Le conflit, ça veut dire que les deux expriment leurs désirs, leurs peurs, sont deux sujets à part entière. Il n'y en a pas un qui a écrasé l'autre. Quand il n'y a pas de conflit, hein, c'est que, voilà, finalement, on est dans une fusion ou une absorption. Ou... Et là, du coup, il y a prévu ce front à front, cette résistance. Donc voilà ce que la Genèse prévoyait, si vous voulez, pour cette relation femme-homme. Voilà comment la Nouvelle Français Courant a, du coup, on a fait particulièrement attention à tous ces passages où il y avait eu des traductions sexistes. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. J'ai déjà été à des célébrations de mariage où on lit ça, ça murmure dans l'assemblée. Hein. Ah bon, mais... Autre exemple de traduction sexiste, la fameuse côte d'Adam. Ah bah oui, voilà, évidemment, la côte. J'ai même un scoop pour vous, le Targum nous dit que c'est la 13e côte. Donc vous pouvez compter, ah, c'est la 13e côte. Bon, eh bien ici, d'abord notons qu'il y a un profond sommeil d'Adam. Alors c'est pas une anesthésie pour pas qu'il ait mal, hein, on dit ça des fois. Un profond sommeil, non, c'est le sommeil aussi de l'alliance entre Dieu et Abraham, par exemple. Karl Barth a suggéré, le théologien, c'est pour que jamais l'homme ne puisse dire que la femme est une créature de l'homme. Il dormait quand elle a été créée. Il y est pour rien. Il dormait quand elle a été créée. Il y est pour rien. En tout cas, je reviens donc sur ce mot de côte. Vous connaissez sans doute ces interprétations passablement misogynes. Pour créer la femme, il n'a pas pris la tête d'Adam pour qu'elle ne se sente pas prétentieuse, ni ses yeux pour qu'elle ne soit exagérément curieuse, ni ses oreilles pour qu'elle ne soit pas indiscrète. Je continue, vous avez compris, hein, vous voyez. Mais sa côte pour qu'elle soit modeste. Et oui, elle a été prise d'une côte courbe, et c'est pour ça que la femme est fourbe. Oui, on a entendu toutes sortes de bêtises par rapport à cette côte ici. Et c'est vrai que l'immense majorité des traducteurs ont ici choisi la côte, alors que partout ailleurs, ou plutôt nulle part ailleurs, c'est traduit côte. C'est là, en hébreu, c'est le côté, pas un organe spécifique, mais beaucoup plus large, symbolique, si vous voulez, le côté. Ce n'est pas un organe en particulier, le côté. Par exemple, dans le tabernacle, hein, la tente de la rencontre, dans le désert pendant 40 ans, eh bien, il y avait les planches du tabernacle qui sont côté à côté, côte à côte, avec ce mot-là, et qui doivent s'adapter les unes les autres, ici. Eh bien, là, il y a eu un effet très pervers de cette traduction. La femme créée comme à part la côte, ça veut dire quoi ? Qu'elle est un morceau de l'homme. C'est ça qui a été véhiculé comme idée. Hein, la femme comme un morceau, et donc inférieure, hein, c'est un morceau, voilà. Et non, elle est bien ici, c'est bien un de ses côtés ici. Hein. Et donc, vous voyez, elle est son vis-à-vis, son côté à côté, hein, du coup ici, c'est très bien dit. Donc, on va éviter les conclusions trop hâtives, là, sur Genèse 1 et 2, vous voyez. Adam n'est pas un prototype parce qu'il aurait été créé en premier, un brouillon. Et puis la femme, elle, le chef-d'œuvre, on l'entend aussi, ça, hein, voilà. Ève n'est pas non plus inférieure parce qu'elle aurait été créée en second. Non, non, non. Et donc, c'est des animaux qui nous sont supérieurs.
C'est bien le numéro de sécurité sociale.
Et on est un 2, oui. On est toujours défini par rapport à l'autre. Mais vous voyez, là, les traductions sexistes ne nous ont pas aidé à voir la beauté, là, de ces programmatiques, là, ce qui est dit en Genèse 1 et 2. Bon, évidemment, la Bible ne s'arrête pas en Genèse 1 et 2. Il y a un Genèse 3. Il va tout compliquer, que les théologiens ont appelé, du coup, la chute. La désobéissance de l'être humain, sa tentation d'être comme des dieux, et là il va y avoir du coup une discordance, une disharmonie dans ce qui était prévu ici dans l'univers, et donc, en conséquence de la chute, désormais le travail est devenu pénible, et la relation désert-kénecdo, de vis-à-vis, va se transformer en relation de domination. C'est l'apparition du patriarcat, c'est en tout cas l'interprétation étiologique, hein, que nous fournit la Bible. Les anthropologues en ont d'autres, hein, d'accord, pour l'interprétation du patriarcat. Mais dans la Bible, c'est très intéressant, cette domination d'un genre sur l'autre, le patriarcat, est présentée comme une conséquence de la chute, du péché, et pas du tout comme le désir créationnel de Dieu. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne sera pas obligé d'y rester dessous. si c'était une conséquence du péché et de la chute. Dieu maudit le serpent, Dieu maudit la terre, il ne maudit pas la femme. Relisez bien Genèse 3, il n'y a jamais le verbe maudire pour la femme ici. Hein. Il dit en fait ici, hein, c'est Genèse 3, 16, hein, voilà, ton désir se portera vers ton mari, tu iras vers lui pour une relation d'erkenekdo et de vis-à-vis, telle que c'était prévu, mais à la place, tu rencontreras donc cette relation de domination, il dominera sur toi. Et le matriarcat ne serait pas mieux, hein, ce serait tout autant une conséquence aussi de la chute. Hein. Et donc on voit bien que là, on n'est pas à l'impératif, c'est pas un ordre divin, la souffrance de l'enfantement, la domination de l'homme sur la femme, c'est plutôt des constats à l'avance. Bah, désormais, vous avez changé les règles du jeu, je vous annonce désormais comment ça va se passer. Au lieu de ce Ezerkenekdo, il y aura désormais un rapport de force. Et je dis bien, pas seulement dans le couple, mais plus largement pour toutes les relations du coup dans la société. Ce Ezerkenekdo qui était prévu dans la création se transforme en domination d'un sexe sur l'autre. Et un renversement, un indice de ce renversement, il ne faut que 6 générations, et dans vos Bibles, c'est la page en face dans votre Bible, de Adam à Lémec, Genèse 4, pour qu'apparaisse la polygamie. L'inverse absolu de Ezerkenekdo, chair de ma chair, une seule chair, etc. Le comble là de cette domination masculine, ici, et Lémec prit 2 femmes, donc ça commence avec 2, jusqu'au harem de Salomon et ses 1000 femmes et concubines ici. Et donc à partir de là, à partir de Genèse 3, dans l'Ancien Testament, on rentre dans des heures particulièrement sombres, on va dire, pour la femme. Donc c'est vraiment la société, la patriarcale, si vous voulez, avec une culture misogyne, patriarcale. À titre indicatif de cet androcentrisme, hein, donc une société centrée sur l'homme, eh bien sur les 1426 noms propres qui sont mentionnés, 1315 sont masculins. Moïse, David, Jérémie, etc. Vous voyez. Donc s'il y a des matheux, vous avez fait le calcul, bah oui, on a seulement 111 noms de femmes, moins de 10% au total. Une invisibilisation, là, du coup, elles sont les personnages secondaires de l'histoire. Quelques indices de cette misogynie, dans l'Ancien Testament, la femme est toujours considérée sous une autorité masculine. Son père, ou ensuite son mari, d'accord. Son mari peut, du coup, même annuler les vœux qu'elle prononcerait. La femme appelle son mari mon Baal, mon maître, mon propriétaire. Il n'y a pas la même exigence pour l'adultère entre un homme et une femme, dans l'Ancien Testament. Hein. Du coup, voilà, une femme mariée est adultère, peu importe l'homme avec qui elle va. Un homme marié est adultère que s'il va avec la femme d'un autre Israélite. Si c'est une étrangère ou une prostituée, c'est pas, ça compte pas, hein, c'est pas un adultère. Il y a bien sûr aussi la loi sur l'ordalie. Et puis, seul le mari peut prendre l'initiative du divorce, et donc la traduction divorce n'est même pas opportune, c'est une répudiation. Hein. Seul le mari peut prendre cette initiative-là. Et en matière d'héritage, les filles n'héritent pas s'il y a un frère, ça c'est la loi aussi, et dans l'Ancien Testament, elles ne peuvent pas être prêtres. Donc ces indices-là nous montrent bien, si vous voulez, cette société patriarcale. Autre élément important de l'Ancien Testament, des textes de violence. Nombreux textes de violence ici, dont on ne parle pas beaucoup, hein, ils sont souvent tabous ici. On voit pourtant ce festival dramatique de ces textes, ils sont là. Donc si on les arrache de la Bible, on se dit, mais pourquoi, quel est le but là du coup, si ce n'est pas de nous ouvrir aussi du coup à cette réalité. Alors on a Agar, la servante étrangère, enceinte, renvoyée pas une fois, mais 2 fois hein, par Abraham et Sarah dans le désert, avec comme seule issue de mourir ici. Hein. Et Sarah non plus, ça n'a pas été rose. Vous vous souvenez, Abraham qui la vend, il la vend pour sauver sa peau. Il est en Égypte, hein, et du coup, elle se retrouve, alors ça se passe 2 fois. La 2e fois, Dieu intervient, mais pas la première. Hein. La première, elle se retrouve dans le harem de Pharaon. Il ne faut pas en avoir une vision trop romantique, là, hein, du harem de Pharaon. Il n'y a pas le consentement de Sarah, là, ici. Hein. Il y a aussi la femme philistine de Samson. Avant la célèbre Dalila, eh bien, on a la demande en mariage la plus romantique de tous les temps, en Juges 14. Il vient voir son père et il dit « Prends-la-moi, elle, car elle est bonne à mes yeux. » Les traducteurs ont essayé d'arranger un peu les choses. « Je voudrais la demander en mariage parce qu'elle est belle. » Enfin, vous voyez, voilà, on a essayé de... Mais c'est Samson, quoi. Hein, voilà, il est brut de décoffrage. Le degré zéro de la romance et de la complicité de Cantique des Cantiques, hein, d'accord. Mais donc, c'est Samson, ici. Hein. Et donc, c'est aussi... ça terminera très mal pour elle. Hein, elle finit brûlée vive. Hein. On a aussi Abigaël, qui va devenir l'épouse de David, mais avant elle est mariée à un certain Nabal. Ça a l'air mignon comme prénom. Non, non, n'appelez surtout pas vos petits-enfants comme ça. Hein. Nabal, c'est la brute. Est-ce que vous imaginez son quotidien, Abigail? Elle est mariée à la brute. L'insensé, le fou, etc. Donc, évidemment, je ne pense pas que ses parents l'aient appelé comme ça. C'est sûrement un surnom qu'il a acquis, hein, qu'il a gagné. Mais ça vous dit quand même quelque chose. Il est dur, méchant, malfaisant, nous dit le texte. Ici, bien sûr, la fille de Jephté, que son propre père sacrifie, et Tamar. Hein, la Civise a apporté à notre attention le drame de l'inceste. Trois enfants par classe, là, ici, vous prenez n'importe quelle classe, hein, vous avez au moins trois enfants qui, chez eux, là, subissent cet inceste, c'est terrible. Eh bien, on a ce texte incroyable dans la Bible, du coup, de Tamar, violée par son frère, son demi-frère. Elle est la fille du roi. Et David, donc le roi, ne dira rien. Ce silence, là, du coup, des familles. Un texte d'une immense actualité. Alors, parfois, on n'a pas voulu voir ces textes, soit on ne les lit pas, on ne les étudie pas, on n'en parle pas, ou alors on les édulcore un peu, vous voyez, on essaye d'en faire des comédies romantiques, hein, voilà. Esther, reine de Perse, Esther, oui, mais c'est une jeune fille orpheline migrante, et qui se retrouve dans la reine de l'homme le plus puissant de son époque quand même aussi, hein, faut remettre les choses dans leur contexte. Et Bethsabée, qu'est-ce qu'on nous a dit? L'adultère de David et Bethsabée. C'est pas un adultère, faut relire le texte. Où est le consentement de Bethsabée? David envoie ses soldats chez elle, la chercher et l'emmener dans son lit, dans sa chambre. Et quand Nathan viendra dénoncer ce péché de David, il comparera Bethsabée à la brebis qui a été prise. Et c'est le même verbe que les soldats qui sont venus la prendre. Elle n'est pas accusée, Bethsabée, c'est David qui l'est. Faut arrêter d'appeler ça l'adultère, là, de Bethsabée, c'est beaucoup plus sérieux. Mais vous voyez, c'est une manière pour nous d'être dans une forme de déni face à ces violences. On n'a pas envie de les voir ici. Hein. Toute l'iconographie de David et Bethsabée, là, ici, c'est elle qui l'aguiche. Hein. Voilà, vous verrez tous les tableaux, c'est toujours elle qui est en train d'aguicher David ici. Hein. Je vous passe l'histoire la plus sordide en Juge 19. Alors là, un soir où vous êtes où tout va bien, hein, où voilà, il fait beau, et voilà, vous allez relire ce chapitre de la concubine du Lévite découpée, violée en réunion toute la nuit et découpée en morceaux. Là, on atteint les paroxysmes. Dans ce contexte-là, il y a très peu de couples qui vont bien dans l'Ancien Testament, hein, d'accord. Et lorsqu'il y en a un qui se montre tendre et aimant, le narrateur nous le dit justement parce que c'est vraiment une exception, mais en général, c'est dans un contexte de, regardez, Elkana, donc les parents de Samuel, Elkana aimait beaucoup Anne. Sortez les violons. Oui, mais c'est dans un contexte de polygamie. Il y a aussi Pénina à côté. D'accord, hein, et qui du coup lui fait beaucoup de vexations et de un contexte très difficile. Hein, voilà, la polygamie, c'est très violent ici. Hein. Et Jacob aimait Rachel, ah bah oui, très bien, mais enfin il couche aussi avec sa sœur Léa et avec les servantes. Hein, voilà, donc il a des enfants avec chacune. Donc il faut vous voyez, toujours remettre aussi ici dans leur contexte. Donc on entend très peu d'études bibliques sur ces textes-là. Il y a une théologienne qui a écrit un excellent livre, malheureusement pas traduit. Elle a appelé ces textes les textes de terreur. Ben, ils ont une place, ils ont une utilité, justement sans doute pour aiguiser notre conscience et qu'on ne puisse pas dire « pas chez nous », puisque ça s'est produit dans des familles de croyants, dans la Bible, jusqu'à David, d'accord ? Ben, justement pour qu'on ne soit pas dans ce déni-là. Heureusement, dans l'Ancien Testament, il y a aussi un peu de lumière en ce qui concerne là, cette égalité femmes-hommes, des signes avant-coureurs de restauration, j'en citerai quelques-uns, vous avez des femmes de valeur, qui renverse le cours de l'histoire ici. On pense évidemment à Rahab, la prostituée qui protège et sauve les espions, Esther qui sauve son peuple de l'extermination, et puis des anonymes. Je pense à Hélène qui m'impressionne beaucoup, c'est la femme avisée qui sauve toute sa ville face au général Joab. En face d'elle, elle a le général Joab, assoiffé de vengeance. Il veut tout raser, tout détruire. Et elle va réussir à négocier avec ce général, assoiffé de vengeance, et sauver sa ville. Son nom ? La femme avisée d'Abel Beth-Meka, d'accord, voilà. Il y a aussi des femmes qui prennent les armes dans une société où ça ne se faisait pas du tout. Ici, on pense bien sûr à Yaël et Sisra, et puis pour nos amis catholiques, hein, dans Judith aussi évidemment, et son courage face au général Holoferne. On a aussi des femmes qui accèdent à des positions d'autorité, et je pense en particulier, je pourrais parler des reines, mais je pense en particulier aux femmes prophétesses. On a dans la Bible quatre femmes prophétesses. À votre avis, qui est prophétesse? À qui vous pensez? Dans l'Ancien, je parle de l'Ancien là du coup. Quatre femmes prophétesses. Oui, Myriam. Ouais, Myriam est appelée prophétesse. Et Alors, vous voyez qu'on en parle moins souvent. Hein. Et oui, forcément, du coup, on a plus de mal à se projeter dans des femmes si on n'a pas ces modèles-là qui nous sont présentés aussi. Hein. Donc voilà, quatre femmes prophétesses. Myriam, la sœur de Moïse. Alors, pas seulement parce qu'elle a entonné une jolie chanson hein, au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'elle a mis des mots sur ce qu'ils étaient en train de vivre. Le prophète, c'est ça aussi. Il aide à comprendre ce qui est en train de se passer. Hein, elle met des mots, du coup. Et puis, le prophète, du coup, ici, c'est très intéressant, Miché va nous dire, va la mettre au même plan que Moïse et Aaron. Je t'ai fait sortir d'Égypte et je t'ai envoyé pour te guider Moïse, Aaron et Myriam. On dirait en bon français, c'est des leaders. Hein, voilà, les leaders du peuple, là, ici, ben, c'était aussi Myriam. Alors, je pense bien sûr à Déborah, avec ce très, très beau tableau de Chagall, ici, allez le voir à Nice, hein, Déborah, qui est non seulement prophétesse, mais juge. Et c'est pas un CDD, hein, c'est 40 ans. Hein. Donc c'est pas juste pour boucher un trou entre deux, vous voyez. 40 ans. Elle est à la fois, du coup, à la tête du pouvoir judiciaire, politique, commander-in-chief et prophétesse. Elle encourage, elle prédit, elle discerne. Alors celle-ci, elle est encore moins connue. Noadia, ben, c'est parce que c'est une fausse prophétesse. C'est très intéressant que dans la Bible, on ait aussi des femmes qui ne soient pas des exemples. C'est pas être femme qui va dire que du coup t'es formidable. Voilà. Il y a aussi des femmes mauvais exemples, évidemment, Jézabel et d'autres. Mais là donc Noadia, elle est fausse prophétesse, elle est une opposante à Néhémie. Et puis enfin, last but not least, Hulda, qui a déjà entendu parler de la prophétesse Hulda. Ouais, elle a tout un chapitre pour elle, hein, 2 Rois 22. Elle est à l'origine de la plus grande réforme religieuse de tous les temps sous Josias. Hulda. Ben oui, voilà, vous voyez. Alors, j'ai même pas de dessin, hein, vous voyez, c'est un dessin d'enfant, parce qu'il n'y a même pas d'iconographie là sur Hulda. Eh bien, pourtant, du coup, absolument formidable. À l'époque de Josias, un rouleau de la loi, le Deutéronome, est retrouvé, et elle va l'authentifier, et grâce à cette authentification, eh bien, on va recélébrer la Pâque. Bon, on est quand qu'il célébrait même plus la Pâque, hein, et du coup, eh bien, elle est formidable. Donc, un peu de lumière dans cet Ancien Testament, ici, où la femme est toujours considérée comme éternellement mineure, impure, subordonnée, ici. Hein. Alors, on arrive déjà au Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Jésus va inaugurer une nouvelle ère pour ses relations homme-femme. Et pourtant, le contexte de l'époque n'était pas très propice. Quelle était la prière quotidienne du juif pieux? La première chose qu'il disait en se levant le matin, « Merci Seigneur », enfin, dans les termes juifs, « Béni soit-il, qui ne m'a pas fait gentil, non-juif, béni soit-il, qui ne m'a pas fait femme. » En rendant grâce à Dieu de ne pas être une femme. Ça vous dit quelque chose. Alors, comment le Christ va se conduire avec les femmes? Eh bien, c'est un modèle toujours inégalé. Hein. Il ose aller vers elles. Il les prend pour amies, pour interlocutrices, pour missionnaires. Il discute théologie avec elles. Une attitude d'une impressionnante liberté. Il les considère, il les traite avec respect. Jamais vous ne le voyez les classer dans une catégorie à part. Ah, t'es une femme, ben je reviens tout à l'heure, hein, j'ai d'abord d'autres choses à faire. Il les met pas dans une catégorie à part. Il ose, quelques exemples hein, de cette attitude. Il ose appeler cette femme qu'il guérit, ça fait 18 ans qu'elle était courbée. Il ose l'appeler fille d'Abraham. Mais jamais personne n'avait employé cette expression au féminin. Fils d'Abraham, ça, on connaît, fils d'Abraham, mais fille d'Abraham. Donc non seulement il la restaure, vous voyez, physiquement, il la redresse, son miracle, mais il lui redonne aussi sa dignité. Toutes les promesses faites à Abraham, c'est pour toi aussi. Tu es fille d'Abraham, ton identité. Il a des femmes disciples, bien sûr, comme Jeanne, Suzanne. Il envoie des femmes en mission avec les 70. Il prend le temps de les enseigner, de discuter théologie. On pense bien sûr à Marthe, à Marie. On pense à la Samaritaine, par exemple, aussi. Et puis, il va choisir comme premier témoin de la résurrection, eh bien, des femmes. Et dans l'évangile de Jean, Marie de Magdala, Marie-Madeleine. D'ailleurs, à cause de ce mandat, qu'elle était la première à être choisie comme témoin de résurrection, pendant des siècles, elle a été surnommée Apostola Apostolorum, l'apôtre des apôtres. Parce que l'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Elle a été envoyée par Jésus pour annoncer non seulement qu'il est vivant, mais aussi qu'il est ressuscité. La fraternité et la résurrection, le cœur, là, vous voyez, du christianisme. Elle est apôtre des apôtres. Mais nous, on ne la connaît pas sous ce titre-là. Eh ben non. Qu'est-ce que nous, on a retenu? Qu'est-ce que la langue française a retenu de Marie Magdala? Pleurer comme une Madeleine. Bon, ben oui, alors ça, Ça, c'est resté, hein, vous voyez. L'apostolat de Marie, alors là, par contre, aux oubliettes de l'histoire. Hein. Et derrière elle, du coup, avec elle, l'apostolat tout court des femmes. Donc, pleurer comme une madeleine, ici. Hein. Sa façon d'agir à Jésus, c'est de la subversion. C'est-à-dire, c'est pas de la révolution, les tables renversées, des discours ou des paraboles, non, non. Il n'a pas de discours sur ce sujet-là. Mais par contre, par sa manière d'agir, son comportement fait que plus rien n'aurait dû être comme avant. Il y a une subversion. Il inaugure une ère nouvelle. Alors, je ne vais pas aborder toutes les rencontres de Jésus, mais peut-être m'arrêter quand même avec une très marquante, la Samaritaine. Jean 3, Jésus dialogue avec un membre mâle de l'establishment religieux. Nicodème, tout un chapitre, c'est normal qu'ils s'entretiennent avec les autorités. Jean 4, tout un chapitre pour une discussion théologique aussi avec une femme, une étrangère, et pas n'importe quelle étrangère, une Samaritaine. C'était l'ennemi du peuple ici. Et donc, passons les clichés, les projections, les fantasmes des prédicateurs qui nous la dépeignent comme une femme de mauvaise vie. On a un silence là d'évangile pour nous dire ces cinq maris, comment ça se fait ? Est-ce qu'elle était veuve ? Est-ce qu'elle a été répudiée ? Est-ce qu'elle a connu cette formidable loi du Lévirat ? Vous connaissez la loi du Lévirat, hein ? Ton mari meurt, tu dois épouser son frère. Vous pensez à votre beau-frère, là, mesdames ? Ouais. La loi du Lévirat. D'accord ? Ça, c'était quelque chose, quand même. Hein ? En tout cas, pourquoi elle en est arrivée là ? Ça, on ne sait pas. Hein ? Il y a un silence fracassant, là, du texte, on ne sait pas. Si Jésus lui signale, c'est pour qu'elle comprenne qu'il est prophète. Mais pas du tout. Il n'y a pas de jugement moralisateur sur son histoire maritale passée. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, Jésus. Ici, ce que Jean souligne, c'est l'auteur de l'évangile de Jean, c'est sa soif spirituelle, sa souffrance et les réponses que Jésus veut lui offrir. L'eau jaillissant en vie éternelle. Un élément fascinant de cet échange vraiment important, c'est quand elle lui dit « Je sais bien que le Messie, le Christ, va venir et quand il viendra, il nous annoncera tout. » Et il lui répond « C'est moi ». C'est moi, celui qui te parle. Et du coup, c'est très fort ici, puisque en grec, ce sont les mots ego eimi, moi, je suis, c'est moi, et ce n'est pas des mots anodins. Dans l'évangile de Jean, c'est le premier de la longue série des moi, je suis, Jésus qui dit moi, je suis le bon berger, moi, je suis le cep, moi, je suis la porte, etc. Et c'est surtout une allusion à un autre très célèbre de ces ego eimi, de ces c'est moi. On est au buisson ardent. Dieu se présente à Moïse, et Moïse lui demande « Mais quel est ton nom ?» Et donc il répond en hébreu dans le texte, mais donc dans la traduction en grec, dans la Septante, il répond par ces mots « Ego eimi, c'est moi ». Et donc, c'est une affirmation de divinité que fait Jésus là. Les mêmes mots que Dieu emploie pour se présenter à Moïse. À qui est-ce que le Christ fait cette déclaration de divinité, de sa messianité, de sa divinité ? À une Samaritaine ici. Hein. Et la conséquence, c'est qu'elle va évangéliser toute la ville, elle, l'apôtre de Samarie. Vous le voyez, Jésus et les femmes, c'est vraiment la subversion en marche. L'histoire va montrer que cet élan transformateur, libérateur, insufflé par Jésus, a vite coupé court. Hein. Mais en tout cas, moi j'étais très touchée par cet ouvrage. Alors Jacques Ellul, là, vous permettez à la protestante de citer un théologien protestant ici. Jacques Ellul, dans ce très beau livre, La subversion du christianisme, justement, donc, il raconte ça, comment l'évangile, c'était une bonne nouvelle pour les femmes aussi, a été subverti. Et la société qui se disait chrétienne est devenue l'inverse de ce qui était prévu dans l'évangile, et il cite en particulier pour les femmes ici. Le christianisme devenu puissance, pouvoir, autorité, va jouer contre la femme. Quelle subversion! Et donc ici, ce que j'ai voulu vous montrer là dans ce parcours, et on va voir les premières églises aussi, c'est que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas ce qui était prévu au commencement. Du coup, et si Jésus agit comme il agit avec les femmes, ce n'est pas parce qu'il serait féministe avant l'heure, c'est parce qu'il veut simplement faire la volonté de son Père, faire ce qui était prévu au commencement, ce qu'on a vu ensemble en Genèse 1 et 2 ici. Hein. Et ça, c'est très intéressant, ce qu'il fait s'enracine dans la volonté du Père. Cette égalité, puisque c'est notre thème là de ce soir, cette égalité femme-homme, il la promeut, il l'incarne, il en est l'exemple, parce que, eh bien, c'est ce que voulait son père ici. Et ensuite, bah oui, évidemment, il faut parler aussi un petit peu des premières églises, rapidement. Comment est-ce qu'on se représente Pentecôte, en général, comme ça ? Pentecôte, c'est des hommes, d'accord ? La naissance de l'église, c'est pas des hommes. Dans la chambre haute, ils sont 120, Et il y a des hommes et des femmes. Et pas que Marie, hein, voilà, elles sont nombreuses. Il y a des hommes et des femmes. C'est beaucoup plus rare de trouver un tableau comme celui-là où on voit des hommes et des femmes recevoir l'Esprit. Et vous voyez, l'arbre est dans la graine. Hein, c'est dans la naissance même de l'Église, elles sont là. Ça dit bien, du coup, aussi, cette égalité. Cette égalité, elle se voit aussi dans le signe d'appartenance de la Nouvelle Alliance. Dans l'ancienne alliance, le signe de l'appartenance, c'était, la circoncision. Donc pour les enfants, mâles, garçons, d'accord. Dans la nouvelle alliance, le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance, le baptême. Et c'est le même pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas de baptême rose et de baptême bleu. Hein, un baptême pour les garçons et un baptême pour les filles. Non. C'est la dignité des baptisés. Moi, j'étais au synode sur la synodalité, hein, donc dans l'Église catholique en octobre dernier. C'était le cœur des discussions, la dignité des baptisés, justement. Et ça, c'était très important. Et là, on voit bien aussi, du coup, hein, ce baptême qui devient le signe de la nouvelle alliance. Et donc, l'Église, à ses tout débuts, elle est dans la prolongation de ce que Jésus avait mis en place, une communauté de disciples égaux. Mais assez vite, elle va succomber. On a parlé d'une repatriarcalisation de l'Évangile ici. Hein. Et assez vite, eh bien, c'est devenu, comme le titre d'un ouvrage de récent, « Ils sont au pouvoir, elles sont au service » ici. Hein. En fait, l'un des facteurs importants, et on le voit dans les premières communautés dans le Nouveau Testament, tant que les églises se sont réunies dans des maisons, les maisonnées, les églises-maisons, vous savez qu'avant la conversion de l'empereur, 325, hein, il n'y a pas de bâtiment public église. On se retrouve soit à la synagogue, soit au temple si on est à Jérusalem, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens en diaspora, soit surtout dans les maisons, les villas grecques, les villas romaines, les villas juives, d'accord. Et là, il y a du monde, beaucoup de monde qui est là. Et tant que les églises étaient dans des églises de maison, elles avaient des responsabilités. Elles présidaient la scène ou l'Eucharistie, elles enseignent, elles dirigent, et on a énormément d'exemples de ces églises-maisons. Myriam, Lydie, la première convertie d'Europe, c'est une femme, c'est Lydie à Philippe, Appia à Colosse, Nympha à Laodicée. Donc elles accueillent chez elles, et bah, c'est pas seulement qu'elles préparent le café, hein, c'est elles dirigent ces églises-maisons ici. Hein. Alors, on va pas toutes les aborder ce soir, ici du coup, les collaboratrices de Paul, elles sont très nombreuses, d'accord, et elles sont souvent à la tête, du coup, de ces églises-maisons. Et il y a en particulier un chapitre qui nous montre ça. C'est Romains 16. C'est une fenêtre ouverte sur les premières communautés chrétiennes. Malheureusement, vous allez le voir, on va faire l'exercice ensemble. Est-ce qu'on peut peut-être distribuer ça, là, du coup? Hop, merci. Vous allez voir, donc, les traductions sexistes de l'Écriture ne nous ont pas aidé à nous rendre compte de ce qui se passait. Donc on est en Romains 16, je vous présente le contexte pendant que c'est distribué. C'est le dernier chapitre de l'Épître aux Romains, c'est le chapitre des salutations. En général, c'est celui qu'on ne lit pas, vous savez, on s'arrête en 15 et on dit « Oh, les salutations !» Mais non, c'est formidable les salutations. C'est la fenêtre ouverte sur ces communautés. Qui était là? Et vous allez voir que sur les 30 personnes que Paul salue, 10 sont des femmes. Paul n'est pas le misogyne qu'on a prétendu qu'il était. Et la toute première qu'il salue, Romains 16, versets 1 et 2, c'est le texte que vous avez sous les yeux, c'est Phoebé. On va s'arrêter ensemble quelques minutes, si vous voulez bien, sur Phoebé. Je vous invite avec votre voisin ou votre voisine à regarder un peu ces différentes traductions et à voir comment le même mot est rendu peut-être de manière très différente selon les traductions. J'ai pris les traductions courantes en langue française. Avec votre voisin, votre voisine, regardez un peu ces textes.
Laisse de l'église de s'ancrer, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. La nouvelle français courant. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'église de s'ancrer. Recevez-la au nom du Seigneur comme il convient de le faire entre croyants, et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens, et pour moi en particulier. Darby. Or, je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est servante de l'Assemblée, qui est à Sancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. La tobe. Je vous recommande Phébé, notre sœur, ministre de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même.
Donc on nous présente la même personne, vous voyez, dans ce qu'elle fait dans cette église. Hein. Alors du coup, elle nous est présentée, qu'est-ce qu'on nous dit d'elle? Qu'est-ce qu'elle fait dans cette église? Est-ce qu'elle est servante, ministre, diaconesse
ou responsable?
On ne dit pas la même chose. Est-ce qu'elle prépare le café ou elle met la table ou est-ce qu'elle y prêche dans cette église? Ben, vous voyez, on ne dit pas du tout la même chose. Et pourquoi est-ce qu'il faut lui venir en aide? Parce qu'elle m'a donné un coup de main ou parce que c'est une protectrice? Vous voyez, on a des mots là très différents. Derrière, c'est le même mot grec qui n'est pas du tout rendu de la même manière par les traducteurs. Il y a bien des choix subjectifs là, faits de la part des traducteurs. Ça n'a pas le même rendu. Ça ne vous donne pas la même image de ce que fait Phébé dans cette église de Sancré. Sancré, c'est à côté de Corinthe. Alors, je vais revenir sur Phébé. Donc, dans ce chapitre, vous irez le relire maintenant du coup, Romains 16. Vous y ferez la connaissance aussi de Priscilla, Prisca, hein, qui enseigne. Alors, elle est enseignante, elle est même enseignante d'enseignants, hein, puisqu'elle enseigne elle va être enseignante d'enseignants. Vous allez y voir aussi Marie. Et puis, alors, il y a des noms, on ne sait même pas que c'est des noms de femmes. Il parle de Tryphène, de Tryphose, de Persis, on pense que c'est des noms de maladies, hein, vous voyez, voilà, on les lit, on ne sait pas du coup hein, que c'est des noms de femmes, mais c'est des collaboratrices qu'il a et dont il est très fier ici. Hein. Et puis alors il y a Romains 16, 7, vous irez voir, Madame l'apôtre Junia, et vos traducteurs, quand je vous parle de traduction sexiste, ont été tellement gênés par la présence d'une femme apôtre qu'ils ont masculinisé ce prénom et ils ont transformé Madame Junia en Monsieur Junias. Saluer Andronicus et Junias, un prénom qui n'existe pas. Hein, voilà. Mais c'était tellement gênant d'avoir une femme apôtre. Vous comprenez que si vous avez une femme apôtre, ça veut dire que c'est les autres textes dans les autres épîtres qu'on a mal compris. Hein, voilà. Ou alors on a un Paul complètement schizo, hein, ou alors on n'a pas bien compris les autres textes. Alors du coup, pour notre Phébé, eh bien, on va nous dire que dans le grec, elle est diakonos. Et donc ça, c'est un mot qui chez Paul... quelqu'un qui prêche l'évangile, qui sert de porte-parole, et donc pour Phébé, ça peut vouloir dire qu'elle a annoncé l'évangile, qu'elle a prêché, et aussi, les deux peuvent se cumuler, en tant que porte-parole, qu'elle a eu la mission de porter cette lettre aux habitants de Rome, aux Romains. Et c'est pour ça qu'elle est saluée en premier. Ça ne veut pas dire faire la factrice, porter une lettre, c'était vraiment un acte de confiance, vous lisiez la lettre à voix haute à la communauté, et vous répondiez aux questions. On parle de Romains, là, hein. Le plus traité théologique, le plus profond, voilà, et c'est à Phébé, une femme qui le confie. Alors ici, il y a un anachronisme avec diaconesse, et pourtant c'est une traduction tout à fait honorable par ailleurs, mais diaconesse, ça n'est pas possible, c'est anachronique, puisque ça apparaît au quatrième de notre ère, d'accord? Et donc c'est pas possible de mettre là ici diaconesse, là on voit que ça ne marche pas. Donc Paul va aussi la recommander, avec ce très, très beau tableau des catacombes, là, ici, de venir en son aide, parce qu'elle a été prostatis, un terme qui nous dit quelqu'un qui est en situation d'autorité, hein, qui exerce l'autorité, un patron. Et donc ça peut être dans le sens qu'elle exerçait l'autorité, notamment qu'elle préside la communion, on le retrouve ailleurs pour présider la communion, ou bien, et ou, vous voyez, les deux sont possibles, qu'elle exerçait pour lui un patronage, qu'elle était sa dame patronne, le patronage était... un mode de relation très connu dans l'Antiquité où quelqu'un faisait bénéficier à quelqu'un d'autre de son carnet d'adresse, d'accord, et donc il aurait été au bénéfice ici de sa maison, de son réseau, etc. Donc ça peut être un peu tout ça. Ce qui veut dire que Phébé est une dirigeante influente, exerce son ministère dans cette église locale, et c'est bien sûr les traductions sexistes des traducteurs, vous les avez sous les yeux, qui font qu'elle est mise sous le boisseau, hein, et qu'elle est invisibilisée. Donc du coup, Paul apprécie son ministère et il le dit, et ça c'est vraiment une perspective très rafraîchissante. Je vais aborder très brièvement cette question du coup des traductions sexistes en vous donnant deux autres exemples, et ensuite si vous voulez creuser, bah, évidemment c'est dans « La Bible est-elle sexiste hein, ?» je développe beaucoup plus tous ces exemples. Et oui, pendant très longtemps, les traducteurs ont été des traducteurs hommes, d'accord, et donc Jérôme, Luther, Hostie, Darby, Segond, et ils étaient les enfants de leur époque, et ils n'ont pas pu voir les trésors d'égalité qu'il y avait dans la Bible. Ils ont projeté leur culture dans le texte biblique, en fait, et aujourd'hui, on redécouvre ces trésors. C'est pas qu'on réécrit la Bible, c'est qu'on se rend compte qu'il y avait des trésors d'égalité, comme le côté et pas la côte, comme Ezerkenekdo, comme il y avait des trésors d'égalité, mais on n'était pas capable de les voir. Et donc aujourd'hui, les équipes de traduction essaient de faire beaucoup plus attention à ce qu'il y a vraiment dans le grec et l'hébreu, et pas seulement plus écouter l'évangile que la culture, si vous voulez. Hein. Alors je vais vous donner un exemple ou deux, vous allez bien comprendre. En grec, on a un mot, anthropos, vous le connaissez dans anthropologie, qui veut dire l'être humain, homme et femme. Ce qui fait que quand l'auditeur grec de Paul ou d'un évangéliste entend anthropos, il comprend tout à fait qu'on veut dire homme et femme. Mais nos traducteurs français, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De toujours traduire anthropos par homme. Même pas avec un grand H, hein, homme. Ce qui fait que quand vous entrez dans le texte, vous ne savez pas si l'auteur, lui, en grec, il incluait les femmes. Et alors, sur des passages qui touchent à la place de la femme dans l'Église, évidemment, ça va être important. De Timothée 3, 17, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. L'homme de Dieu. Mais en grec, c'est anthropos. Les femmes aussi sont équipées pour toute œuvre bonne. Et sur l'enseignement, l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, Timothée, transmets-le à des hommes dignes de confiance, qui à leur tour le transmettront à d'autres. Donc l'enseignement, c'est par des hommes, pour des hommes, vous voyez, c'est écrit, noir sur blanc. Ouais, mais ce que tu me montres, c'est du français. En grec, c'est anthropos. Transmets-le à des personnes dignes de confiance. Et c'est pour ça qu'il a parmi ses collaboratrices des enseignantes remarquables, comme Prisca, Priscilla ici, hein, si vous voulez. Donc vous voyez que ça ne nous a pas aidé. Les traductions les plus récentes essayent de corriger un peu ça. Évidemment, la Nouvelle Français Courant, ça c'était un des axes de révision majeurs, mais ça a été une des grandes difficultés. Je vous cite un passage dont vous n'avez jamais entendu parler, mais je l'aborde quand même. « Femmes, soyez soumises à vos maris », le verset le plus inconnu, hein, bien sûr, de la Bible, Éphésiens 5, 22. Mais non, justement, là aussi, ça ne nous a pas aidé, les traductions. Hein. Et c'est devenu une arme de soumission massive, ce passage-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans le découpage du texte qu'on a fait quelque chose d'absolument ahurissant. Donc dans les manuscrits anciens, vous le voyez là, mais ça ce serait une autre conférence, hein, un autre soir, dans les manuscrits anciens, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a même pas de voyelle en hébreu, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de titre. Tout ça c'est ajouté par les traducteurs après. Et parfois, on l'appelle le péritexte, et parfois, ça oriente drôlement votre lecture. Dans le cas d'Éphésiens 5, qu'est-ce qu'on a fait comme péritexte? Il y avait un verset 21, juste avant ce fameux Éphésiens 5, 22, qui donnait le ton pour tout l'ensemble du passage. « Soyez soumis les uns aux autres. » C'était la clé de voûte de tout ce qui suivait. « Soyez soumis les uns aux autres. » Paul voulait tellement qu'on articule les deux, qu'en Éphésiens 5, 22, il n'a pas mis de verbe. « Femme à vos maris, si tu veux savoir quoi à vos maris, tu dois lire le 21. » Il n'y a pas de verbe en 22. Qu'est-ce que les traducteurs ont fait? Ils ont mis un point final après 21. On a recommencé une nouvelle phrase en 22, on a rajouté un verbe qui n'était pas en grec, « Femme, soyez soumise à vos maris », et surtout un titre pour être sûr qu'elle ne rate pas ce passage, « Les devoirs de l'épouse chrétienne ». Ce qui fait que quand on arrive devant cette page, bah évidemment on veut savoir ce que c'est les devoirs de l'épouse chrétienne, vous voyez. Et quand vous avez un titre, vous ne lisez pas ce qu'il y a avant le titre, hein, vous lisez ce qu'il y a après. Et du coup on a séparé artificiellement quelque chose qui était construit, qui était voulu, cette soumission réciproque, et puis ensuite ce zoom, ben, vous, femmes, même dans une période, là, une culture où le mariage n'était pas forcément un mariage d'amour, vous allez aussi vivre ça, parce qu'en plus, ce verbe soumettre, ici, attention, c'est pas mari, soumettez vos femmes, hein. Le verbe soumettre ici, il veut dire porter les fardeaux les uns des autres, être un appui, porter les fardeaux les uns des autres, être un appui. Et c'est pour ça que c'est l'un l'autre, que c'est réciproque. Et il dit, bon, ben, je vous le dis de façon générale, et c'est aussi vrai pour vous, mesdames, hein, même quand là, vous n'avez pas choisi votre conjoint. Mais vous voyez que là, on a fait une vraie construction tout à fait artificielle. Moi, je préside une association, une association sur les violences conjugales, une place pour elles. J'entends des témoignages toutes les semaines de femmes victimes de violences conjugales dans nos églises. Dans nos églises. Les chiffres sont pires dans nos églises que dans le monde. Vous parlez d'un témoignage, hein, un contre-témoignage, parce que c'est encore plus difficile pour une femme croyante. L'amour pardonne tout, pardonne 7 fois 77 fois, une bonne chrétienne ne divorce pas. Enfin, voyez tout ça qui fait que c'est encore plus dur pour une victime. Eh bien, Ephésiens 5, 22 est en haut du palmarès de ce qui verrouille, si vous voulez, aussi pour elle, cette situation. Hein. Donc, alors, voilà, un mot de conclusion ensemble ici. Hein. Donc, on s'est posé la question de quel regard biblique sur l'égalité femmes-hommes. Et j'ai voulu vous montrer que, bien que les textes bibliques sont évidemment ancrés dans une culture patriarcale, que le message global, que la perspective, elle, en effet, elle était tout à fait positive et libératrice, et qu'au fil de ces pages millénaires de la Bible, on découvre bien une trajectoire, et que le patriarcat n'est pas, donc l'inégalité homme-femme n'est pas le dessein créationnel de Dieu, c'est la conséquence de la chute. Au commencement, lui, Dieu avait voulu l'homme et la femme créer égaux à sa ressemblance, et donc le patriarcat, l'inégalité n'est pas la fin de l'histoire. Jésus, par son comportement, a montré qu'une autre façon de vivre ensemble était possible ici. Et Paul a enfoncé le clou avec ce très beau verset de Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Et il reprend là les exacts mêmes mots qu'en Genèse, il les créa homme et femme. Il les créa mâle et femelle. Et Paul reprend les mêmes mots par la Septante, par la traduction grecque. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni mâle ni femelle, nous dit Paul. La boucle est bouclée. Ce qui veut dire, c'est pas qu'on est interchangeable, c'est qu'il n'y a plus de discrimination. Tout ce qui constituait la discrimination n'a plus lieu d'être ici. Hein. Alors là, vous voyez cette bonne nouvelle, cet évangile de la Bible, une graine malheureusement souvent étouffée, notamment par des traductions sexistes. Prenons peut-être une image de Paul pour illustrer ça. Quand Paul veut présenter l'Église, la décrire, il dit que l'Église est un corps, en 1 Corinthiens. Vous savez, il y a la main, il y a le pied, il y a l'œil, il y a les différents membres. Eh bien, disons que l'Église, toute Église confondue, l'Église, à l'image de la société, a été hémiplégique pendant des siècles. Paralysée de moitié, à ne pas utiliser les dons que Dieu avait faits à la moitié du corps. C'est pas facile hein, pour un corps hémiplégique de remplir sa mission, hein, si vous voulez. Hein. On va dire que l'Église est en phase de rééducation, une rééducation très lente, très progressive, mais à laquelle nous sommes toutes et tous invités à participer, et on peut espérer que ce genre de rencontre y contribue. Voilà. Et je vous remercie vraiment de votre attention. Merci.